J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Aléa. C'est Régis au micro et aujourd'hui je vais vous parler de Roger Caillois. Qui est Roger Caillois? Eh bien, c'est l'un des rares intellectuels français à s'être intéressé de manière sérieuse à la philosophie du jeu. Petit rappel des émissions précédentes, la philosophie du jeu c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de la pensée. Ça ne remonte pas à l'Antiquité, ni même aux Lumières, mais à avant-hier, puisque c'est au XXe siècle, en 1938, qu'on voit apparaître la première étude étoffée et méticuleuse sur le jeu, avec la publication de l'essai Homo Ludens de Huizinga. Ici, avec Roger Caillois, nous sommes à peine quelques décennies plus tard, en 1958, avec une nouvelle étude sur le jeu, qui s'intitule « Les jeux et les hommes », et qui va essentiellement prolonger et améliorer les travaux de Huizinga, particulièrement en ce qui concerne la classification des jeux. Alors vous vous demanderez certainement, à quoi ça sert ça de réfléchir sur une classification des jeux? Eh bien, dresser des catégories et classifier des caractéristiques d'un objet, c'est tout simplement un des outils les plus fondamentaux qu'on utilise en philosophie pour commencer à étudier un objet aussi étrange que le jeu. D'abord, on commence toujours par essayer d'encercler l'objet, tant bien que mal, par des définitions maladroites et parfois fumeuses ou pire, complètement obscures et prétentieuses. Et c'est ensuite, juste ensuite, dans un second temps, qu'on essaye d'avancer en tâtonnant dans la connaissance de l'objet, en proposant des catégories qui nous permettent de prendre prise sur l'objet, en découvrant par exemple des aspérités qui nous font penser que tel aspect de l'objet est différent de tel autre. Mais arrêtons de rester dans le flou des abstractions et revenons concrètement au jeu. Qu'est-ce qu'une bonne classification des jeux? C'est une classification qui nous permet de départager différents types de jeux, de mettre les jeux dans des cases pour ensuite réfléchir à, par exemple, les types de jeux que l'on préfère et ceux que l'on n'aime pas, comme le jeu de loi, ou encore pour voir quels types de jeux vont favoriser l'adresse, comme le concours de lancer de carottes, ou au contraire les jeux qui vont favoriser la réflexion, comme le jeu d'échecs, ou bien des jeux à la croisée des deux chemins, de l'adresse et de la réflexion, comme le concours de lancer de jeux d'échecs. Enfin, comme vous pouvez le voir, les catégories sont très utiles pour réfléchir. Et notre cher Roger Caillois, dans son ouvrage resté célèbre sur la sociologie des jeux, a proposé une première classification, peut-être un brin rudimentaire, mais en tout cas très intéressante pour comprendre notre rapport au jeu et ce que l'on ressent face au jeu et ce que l'on recherche dans un jeu. Pour Caillois, il existe quatre dimensions fondamentales, quatre grandes catégories des jeux. Il y a tout d'abord la compétition, puis le hasard, le vertige et l'imitation. Caillois, comme tout intellectuel qui se respecte, a bien entendu donné des noms grecs, latins ou anglais à ces quatre catégories, parce que dans le jargon universitaire, ça faisait plus classe. Il les a donc appelés l'agone pour la compétition, l'aléa pour le hasard, la mimicry pour l'imitation et l'illynx pour le vertige. Pour vous donner un aperçu de ces quatre différents sens, des différentes sensibilités qui se cachent derrière ces quatre catégories de jeux, Vincent va vous lire quelques courts extraits de la façon dont Caillois définit lui-même dans son ouvrage ces quatre classes de jeux. Et on commencera par l'agone qui regroupe tous les jeux de compétition.
Avec l'agone, tout un groupe de jeux apparaît comme compétition. C'est-à-dire comme un combat où l'égalité des chances est artificiellement créée pour que les antagonistes s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur. Il s'agit donc chaque fois d'une rivalité qui porte sur une seule qualité, rapidité, endurance, vigueur, mémoire, adresse, ingéniosité, etc., de telle façon que le gagnant apparaisse comme le meilleur dans une certaine catégorie d'exploits.
Bien après la deuxième catégorie, opposée selon Caillois à la compétition, c'est le hasard, ou l'aléa.
Aléa, c'est en latin le nom du jeu de dés. Je l'emprunte pour désigner tout jeu fondé, à l'exact opposé de l'agone, sur une décision qui ne dépend pas du joueur, sur laquelle il ne saurait avoir la moindre prise et où il s'agit par conséquent de gagner bien moins sur un adversaire que sur le destin. Des exemples purs de cette catégorie de jeu sont fournis par les dés, la roulette, le pile ou face, la loterie, etc.
Troisième catégorie, l'imitation ou la mimicry.
Tout jeu suppose l'acceptation temporaire, sinon d'une illusion, du moins d'un univers clos, conventionnel et à certains égards fictif. On se trouve alors en face d'une série variée de manifestations qui ont pour caractère commun de reposer sur le fait que le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre.
Enfin, la quatrième et dernière catégorie des jeux chez Kaiwa est ce qu'il appelle l'ilinx, le vertige.
Une dernière espèce de jeu rassemble ceux qui reposent sur la poursuite du vertige et qui consiste en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. Dans tous les cas, il s'agit d'accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie.
La prochaine fois que vous jouerez à un jeu, vous essayerez de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que le jeu provoque chez moi? Qu'est-ce que je ressens dans ce jeu? Est-ce à montrer ma valeur dans une compétition? Est-ce à tenter ma chance face au destin? Est-ce à tromper mon monde en jouant un rôle? Ou est-ce à me provoquer des sensations fortes proches de l'étourdissement? Parfois, vous arriverez à mettre le doigt sur une de ces quatre émotions que le jeu provoquera chez vous. Aléa, Agon, Ilinx ou Mimicry. Mais parfois, vous n'y arriverez pas. Parce que le jeu auquel vous jouerez vous provoquera une autre émotion, un peu différente. Ou encore parce qu'il s'agira d'un mélange complexe de toutes ces émotions à la fois. Et dans ce cas, vous verrez que la classification de Kaiwa, qui est pourtant un bon début pour comprendre l'univers du jeu, n'est plus tout à fait satisfaisante aujourd'hui pour rendre compte de toute la diversité des jeux. Surtout depuis l'explosion récente des différentes formes de jeux, et notamment avec l'arrivée des jeux vidéo. Mais il faut toujours un point de départ, et celui de Kaiwa en est un, qui plus est extrêmement agréable à lire. Et sur ce, je vous dis bon jeu et bonne lecture.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.